France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Hélène Roussel, direction la Mauritanie pour commencer avec une élection présidentielle qui est prévue samedi. Et parmi les enjeux du scrutin, les descendants d'esclaves.
Les morts noirs, ce qu'on appelle aussi les aratines, représentent 40% de la population des descendants d'esclaves marginalisés, des sous-citoyens. Il y a pourtant eu plusieurs abolitions dans le passé, pas plus tard qu'en 2015. Une nouvelle loi qui a fait de l'esclavage un crime contre l'humanité, passible de 20 ans de prison. Et bien malgré tout, l'esclavage héréditaire persiste. Privation de liberté dès la naissance, maltraitance, descendants d'esclaves contraints de céder leurs récoltes gratuitement, ou bien encore cantonnés à des métiers comme le gardiennage ou le nettoyage. Il y a donc les descendants, mais il y a aussi les esclaves tout court. Oui, ça existe encore en Mauritanie. 43 000 personnes selon Amnesty International, soit 1% de la population totale. Autre chiffre parlant, dans un système scolaire qui fonctionne à deux vitesses, la communauté aratine concentre 85% des analphabètes du pays. France 24 a rencontré ce père de famille dans son taudis. Ce papa raconte que l'école publique est un échec, qu'il n'a pas les moyens d'envoyer ses enfants dans une vraie école privée. Il dit aussi qu'il ne pense qu'à ça, la scolarisation de ses enfants. Brahim Ramdan de la Fondation Sahel, lui, est un militant de la cause aratine et il ne mâche pas ses mots.
Il y a beaucoup de bruit, mais dans les faits, il n'y a rien. Il y a une injustice caractérisée. Il y a un racisme d'État.
Un racisme d'État. Le prochain président mauritanien fera-t-il bouger la société? En tout cas, parmi les 6 candidats déclarés, il faudra compter avec le parti anti-esclavagiste, arrivé en deuxième position aux dernières élections présidentielles en 2014. Les descendants d'esclaves se retrouvent donc au cœur des programmes. On verra ensuite si la Mauritanie passe enfin des paroles aux actes.
Et pendant ce temps, à l'autre bout du monde, Hélène, c'est la saison de la circoncision.
Les gymnases et les salles de classe transformées en salles d'opération, les tables recouvertes de papier journal et des jeunes garçons qui attendent leur tour entassés dans des couloirs. Rite de passage incontournable aux Philippines, où le taux de circoncision est l'un des plus élevés au monde, 90%. Et pas pour des raisons religieuses, non, c'est seulement la tradition. En Tagalog, la langue nationale philippine, non circoncis, c'est carrément une insulte, figurez-vous. Ça veut dire lâche, parce qu'on n'a pas le courage de supporter la douleur ou de surmonter sa peur. En clair, être circoncis, c'est le critère numéro 1 de la virilité aux Philippines. Et difficile, quand on n'a que 12 ans, de voir les choses autrement.
Mas mature po at magiging mas...
Erwin, qui tient son caleçon pour ne pas qu'il vienne frotter la plaie, raconte qu'il est plus mature maintenant, qu'il est devenu un homme et qu'il va pouvoir aider sa famille. L'opération coûte $240 à l'hôpital, c'est un mois de salaire pour un ouvrier à Manille. Autant vous dire que la plupart pratiquent la séance collective, organisée gratuitement par le gouvernement. Anesthésie locale et antibiotiques, certes, mais vu les cris, ça fait mal et c'est visiblement le but aussi. Si on remonte aux racines, la circoncision arrive aux Philippines avec l'islam en 1450, mais elle va perdurer même après, alors que le pays est pendant 3 siècles majoritairement chrétien. Et de plus en plus d'ONG dénoncent aujourd'hui l'ablation du prépuce. Dans ces conditions, relève de la pure maltraitance.
Allez, on a beaucoup vu ces images sur les réseaux sociaux, mais vous allez nous les rappeler. On sait bien que rien ne va plus sur la banquise, ça ne s'arrange pas.
Et on en parle de temps en temps hein, ici, ces ours polaires repérés de plus en plus loin de chez eux et de plus en plus près des villes. Eh bien, voilà encore une, en l'occurrence, qui fuit son bout de banquise. Avec la fonte des glaces, c'est son habitat, sa survie qui se retrouve menacée. Donc une ours blanche, affamée, a rôdé cette semaine autour des poubelles de Norilsk, c'est dans l'est de la Sibérie. Une équipe de vétérinaires l'a capturée aujourd'hui. Elle sera renvoyée dans un zoo dans un premier temps pour être soignée, avant d'être libérée. Je vous le concède, c'était un peu triste tout ça ce soir.
C'est un peu triste tout. Ouais, merci beaucoup Hélène Roussel, et vous revenez lundi quand même.